France Culture.
Le journal est signé Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Quand Donald Trump et Elon Musk s'attaquent à l'État fédéral américain, le milliardaire annonce avoir pris le contrôle du trésor qui paye les fonctionnaires. Le reportage de Simon Le Baron à Washington dans un instant. Donald Trump qui donne des ailes au nationalisme chrétien. La religion s'invite dans les programmes scolaires dans plusieurs États. Le reportage d'Isabelle Labéry dans l'Oklahoma. En France, l'immigration a continué à augmenter. L'an dernier, plus de 336 000 titres de premier séjour délivrés. Dans le même temps, les expulsions de clandestins ont bondi de 27%. La Cour des comptes appelle à changer la gouvernance de la Cinémathèque française, l'institution mise en cause dans plusieurs polémiques ces derniers mois. Cela fait 15 jours maintenant que Donald Trump a retrouvé la Maison-Blanche, 15 jours au cours desquels le président américain a multiplié les annonces fracassantes pour marquer son autorité. Parmi ses chantiers prioritaires, les coupes sombres dans le budget fédéral, mission qu'il a confiée à Elon Musk. Le milliardaire affirme aujourd'hui avoir pris le contrôle du trésor américain, indispensable pour payer les fonctionnaires. Hier, il avait promis le démantèlement de l'USAID, l'agence américaine pour le développement international. Alors, qu'en pensent les employés fédéraux menacés par la frénésie d'Elon Musk et de Donald Trump? Le reportage à Washington de Simon Le Baron.
Le drapeau du département de l'éducation qui flotte juste au-dessous de la bannière étoile éclatera-t-il encore longtemps dans le vent de Washington? À la sortie des bureaux, pas grand monde pour répondre. Je veux garder mon travail, évacue cet employé. Sandy, elle, accepte de parler.
I'm a school director.
Directrice d'école, elle est venue avec quelques collègues pour une réunion. Son supérieur s'avance, lui parle à l'oreille, pas de réponse polémique. Alors c'est du bout des lèvres que Sandy admet ses inquiétudes.
Je me demande ce que ça veut dire pour nos enfants. Est-ce qu'ils auront encore le soutien dont ils ont besoin? Quoi qu'il se passe ici, je ne peux pas résoudre ces problèmes. Je peux juste rester concentrée sur mes élèves.
Même si elle doit aussi répondre à leurs parents.
Oui, nous avons des parents qui nous parlent de leurs inquiétudes et de leur peur de ce qui est en train de se passer. Je leur réponds qu'on s'en occupe et on verra ce que l'avenir nous réserve.
Un journaliste local est là aussi. Il soupire, c'est l'atmosphère en ce moment dans la ville. Tout le monde a peur et se demande s'il est le prochain sur la liste.
Voilà pour ce reportage de Simon Le Baron à Washington. Cette réélection triomphale de Donald Trump a clairement changé la donne dans de nombreux États conservateurs aux États-Unis. Exemple, l'Oklahoma qui a voté Trump à 65% le 5 novembre dernier. Un État de la Bible Belt, la ceinture biblique où le nationalisme chrétien a trouvé un terrain fertile pour imposer ses idées. Bonsoir Isabelle Labéry.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à tous.
Envoyée spéciale aux États-Unis, Isabelle, vous revenez d'Oklahoma City où les autorités cherchent clairement à imposer toujours plus de religion dans le système éducatif.
Oui, enseigner la Bible et les 10 commandements depuis septembre, c'est obligatoire dans les écoles publiques de l'Oklahoma. Décision du responsable républicain de l'éducation, Ryan Walters.
La Bible est citée plus que tout autre document dans des centaines d'écrits politiques du XVIe et du XVIIe siècle. Il s'agit clairement d'une source historique capitale. Nous la ramènerons dans nos écoles. Nous ferons en sorte que nos enfants de l'Oklahoma comprennent le rôle que la Bible a joué dans l'histoire américaine. Nous ne nous laisserons pas censurer par des extrémistes de gauche. Et si les enseignants ne veulent pas enseigner la Bible, ils peuvent chercher du travail ailleurs.
Au nom de la séparation entre l'Église et l'État, des enseignants et des associations ont porté l'affaire en justice. À leurs yeux, il ne s'agit plus d'éducation, mais de prosélytisme. Ça n'a pas empêché Ryan Walters de lancer un appel d'offres pour acheter 55 000 Bibles. Il en veut une dans chaque classe. Et pas n'importe laquelle. L'édition validée par Donald Trump, qui entretient la confusion des genres, car on y trouve aussi la déclaration d'indépendance et la constitution américaine. Valeur à l'unité, $60. Pour Mark Johnson, pasteur d'une église évangélique, l'initiative répond tout simplement à la spécificité de l'Oklahoma.
On dit que c'est un État religieux, dans le sens où vous avez beaucoup de personnes très attachées à la foi, à la communauté spirituelle de l'église, à ce qu'on appelle appelle les valeurs américaines traditionnelles. Vous savez, jusqu'à récemment, des livres traitant de sexualité, d'identité sexuelle et de fluidité sexuelle ont été proposés à nos enfants dans le public, dès le primaire, et souvent à l'insu des parents ou sans leur consentement. Heureusement, en tant que république, les États-Unis écoutent la voix du peuple. Et en Oklahoma, il se trouve que la voix du peuple est la voix d'une large majorité, enthousiaste à l'idée de transmettre les enseignements éthiques et moraux de la parole de Dieu à ses enfants.
Illustration parfaite de ce qu'on appelle le nationalisme chrétien. Alison Shortle est directrice des études en sciences politiques à l'Université d'Oklahoma City.
Le nationalisme chrétien, c'est cette idéologie selon laquelle les gens pensent que pour être un vrai Américain, il faut être chrétien. Ils pensent que c'est du patriotisme, mais ce n'est absolument pas le cas, c'est du nationalisme. Et c'est une tentative de promouvoir la suprématie chrétienne pour que le christianisme prenne le dessus sur toutes les institutions, en politique et dans la société américaine en général. L'objectif, c'est aussi d'obtenir la privatisation de l'éducation pour pouvoir bénéficier d'un enseignement religieux et spécifique enseigné dans la tradition chrétienne.
Dans l'Oklahoma, les conservateurs religieux attendent d'ailleurs avec impatience la décision de la Cour suprême sur le financement d'une école confessionnelle catholique par des fonds publics. L'école a de bonnes chances de gagner, ce serait une première et le début d'une modification profonde du système éducatif américain.
Le nationalisme chrétien à la manœuvre dans l'Oklahoma, un dossier signé Isabelle Labéry. En France, c'est une bonne semaine pour François Bayrou, le Premier ministre désormais assuré de survivre à l'examen du budget 2025 à l'Assemblée. Après le Parti Socialiste hier, le Rassemblement National a expliqué aujourd'hui qu'il ne voterait pas la censure du gouvernement. Le budget est extrêmement mauvais, a expliqué Jordan Bardella ce matin sur CNews. Mais le président du RN veut épargner aux Français une nouvelle période d'incertitude. Résultat, la motion de censure de la France Insoumise n'a aucune chance d'aboutir demain. Et les amis de Jean-Luc Mélenchon ne décollèrent pas. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir Stanislas.
Illustration cet après-midi à l'Assemblée, lors de la séance des questions au gouvernement, les insoumis se sont montrés particulièrement offensifs, Antoine.
Et cela a commencé par un François Bayrou quasi guiré, ou comment le Premier ministre manie l'art du faux suspense.
Vous avez commencé en disant que nous avions un budget. Peut-être allons-nous attendre demain pour que votre affirmation ne soit plus discutable.
Mais François Bayrou le sait bien, le vote de demain ne sera qu'une formalité, la censure va échouer, le budget va être adopté, d'où le courroux du député insoumis Aurélien Lecoq contre le gouvernement.
La France a déjà un budget. Depuis l'adoption de la loi spéciale, c'est le budget 2024 qui s'applique et la totalité de ces crédits peuvent être utilisés dès maintenant. Vous organisez sciemment le chaos. Ce n'est pas la censure qui désorganise l'État. C'est vous. Le budget qui s'applique aujourd'hui est meilleur que le budget de Monsieur Bayrou.
Enfumage, répond Amélie de Montchalin. Pour la ministre en charge des comptes publics, impossible de fonctionner sans budget.
La loi spéciale n'est pas un budget. La loi spéciale est un régime de service minimum. Vous vivez dans un monde où, au fond, bloquer le pays ne serait qu'une péripétie politique. Dans le monde où nous vivons, bloquer le pays est un acte irresponsable. Parce que bloquer le pays, c'est faire croire aux Français que nous pouvons agir sans cadre.
Amélie de Montchalin appelle au compromis responsable où, selon elle, s'opposer ne veut pas dire tout bloquer.
Merci Antoine Marette. Alors, parmi les sujets qui fâchent aujourd'hui dans le débat politique, il y a l'immigration. La semaine dernière, François Bayrou avait hérissé la gauche en évoquant un sentiment de submersion migratoire. Qu'en est-il exactement? Quelques éléments de réponse ce soir avec les dernières statistiques du ministère de l'Intérieur. Un peu plus de 336 000 premiers titres de séjour ont été délivrés l'an dernier en France, plus 1,8% par rapport à 2023. Les trois pays du Maghreb, Maroc, Algérie et Tunisie représentent un quart de ces primo-délivrances. On note aussi une forte hausse de premiers titres pour motifs humanitaires, environ 55 000. Et puis, il y a le volet répressif de la politique migratoire française. Bonsoir Mathilde Cariou.
Bonsoir.
Le nombre d'expulsions de clandestins a bondi de 27% en 2024, Mathilde.
Oui, 21 600 personnes au total reconduites à la frontière l'an dernier. Et ça inclut les retours aidés, insiste le ministère, c'est-à-dire les personnes qui quittent quitte le territoire avec une aide financière ou des frais de voyage pris en charge. Les premiers concernés, les plus nombreux, sont les ressortissants algériens, avec environ 3000 personnes expulsées en un an. Parmi les pays d'origine fréquents, on retrouve également le Maroc et la Tunisie, ce qui est plutôt logique puisque ce sont aussi les plus représentés dans les demandes de titres de séjour. Ce nombre d'expulsions, il est en hausse constante depuis 2020, avec une accélération ces 9 derniers mois. Le résultat de notre politique de fermeté, écrit Gérald Darmanin sur X, politique engagée, rappelle-t-il, par son gouvernement et poursuivie depuis septembre par celui de Bruno Retailleau. A noter également une forte baisse des régularisations de personnes sans papier, moins 10% par rapport à 2023. Ça, c'est un retournement assez récent. C'est la première fois que le chiffre baisse en 5 ans et la tendance devrait se poursuivre avec le durcissement des conditions de régularisation annoncées par Bruno Retailleau. Enfin, dernier point, le nombre de demandes d'asile diminue, lui aussi, en France comme partout en Europe. Il passe sous la barre du million de dossiers. Et là, les plus représentés, ce ne sont plus les Afghans, comme c'était le cas jusqu'alors, mais les Ukrainiens, avec un nombre de demandes multiplié par 4 en un an.
Mathilde Cariou, merci. Dans l'actualité économique, une centaine de salariés des fonderies de Bretagne étaient rassemblés aujourd'hui à Paris devant le siège de Renault. L'entreprise morbihanaise est en redressement judiciaire. 350 emplois sont menacés. Renault, qui ne commande plus de pièces automobiles aux fonderies, le constructeur a délocalisé leur production en Turquie et au Portugal. Les salariés venus à Paris ont ensuite manifesté devant l'Assemblée avec le soutien de plusieurs élus. Bonsoir Wafia Kenich.
Bonsoir Stanislas.
Vous avez suivi ce rassemblement devant l'Assemblée.
Et les salariés bretons sont à Paris pour demander des comptes à Renault. Maël Le Golf, délégué syndical CGT des fonderies.
Maintenant, on rentre dans une nouvelle phase de redressement. Donc, jusqu'au 4 mars, il y a des potentiels repreneurs qui peuvent se présenter. Mais ces potentiels repreneurs, il faudrait peut-être qu'ils arrivent à savoir ce que Renault a l'intention de laisser ou pas comme en termes de volume. S'ils ont l'intention de rien laisser du tout et que ces potentiels repreneurs-là n'ont pas de tonnage suffisant pour assurer la pérennité de l'entreprise, ça va être compliqué.
Le député macroniste Jean-Michel Jacques est venu soutenir les salariés qu'il connaît bien. L'élu du Morbihan s'étonne des choix faits par Renault.
Première question, est-ce qu'ils sont conscients que Renault, par ses positions stratégiques, ne participent pas à la souveraineté de la France. Au contraire, avec leur délocalisation, ils fragilisent notre pays. Alors que Renault, le groupe Renault, est redevant par rapport à la nation parce que nous les aidons continuellement avec des deniers publics. Et là, alors qu'on a besoin d'eux pour maintenir un plan de charge, par exemple pour la fonderie de Bretagne, ils sont capables, pour gagner des centimes sur certaines pièces, de délocaliser et de fragiliser le fonctionnement d'une usine et perdre des centaines d'emplois.
Une stratégie qui échappe aux députés de tous bords. Aurélie Trouvé, députée LFI, est présidente de la Commission des affaires économiques, est aussi présente lors de ce rassemblement.
Au-delà de nos groupes politiques, quoi, vraiment, pour nous, c'est quelque chose d'insensé que cette usine puisse fermer parce que c'est une usine qui est au top de la décarbonation, qui a des équipements ultra modernes, qui a une équipe de salariés et jusqu'à son directeur extrêmement engagés. Ils ont travaillé sur la diversification de la production. Ils sont prêts à sortir du 100% automobile. Bref, si cette usine-là de fonderie, elle ferme, bah, c'en est fini à terme de toutes les fonderies de France, quoi. Je veux dire, c'est un cas d'école, en fait.
À quelques pas de l'hémicycle, des élus de droite et de gauche attendent donc avec impatience les réponses du constructeur automobile.
Wafia Kenich, alors effectivement, Renault a-t-il lâché les fonderies de Bretagne, comme l'affirment les salariés et plusieurs élus? Je vous propose d'écouter la réponse du directeur général du constructeur, Luca De Meo, était auditionné à l'Assemblée par la Commission des affaires économiques.
Dans ce dossier, Renault a proposé jusqu'à 35 millions d'euros pour soutenir un plan de reprise pour 350 salariés. Est-ce qu'on peut raisonnablement demander à un acteur, même à Renault, de porter seul les conséquences d'une transition qui est d'abord un choix collectif? Est-ce qu'il est normal de faire porter à Renault seul l'échec du management de fonderie de Bretagne? Pour la fonderie de Bretagne, si malheureusement, malgré les montants engagés par Renault, aucun plan de reprise ne se dessine, on prendra nos responsabilités et on proposera aux salariés impactés un emploi équivalent sur un de nos sites en France.
Le directeur général de Renault, Luca De Meo, tout à l'heure à l'Assemblée. Il n'y aura pas d'enquête pénale sur l'abbé Pierre, disparu en 2007. C'est le parquet de Paris qui l'annonce aujourd'hui, alors que la conférence des évêques de France avait saisi la justice. Le fondateur du mouvement Emmaüs, visé par 33 accusations de viol et d'agression sexuelle, des faits présumés commis entre les années 50 et les années 2000. Margot Steve, la justice n'enquêtera pas sur les témoignages des victimes recueillis par le cabinet privé Egae.
Non, et d'abord parce que l'abbé Pierre est mort. Dans ces cas-là, évidemment, impossible d'organiser un procès. Et même si une enquête permettait de découvrir de nouvelles victimes, le décès de l'abbé Pierre empêche toute perspective de condamnation. De nouvelles investigations sont donc inutiles d'un point de vue judiciaire. La conférence des évêques de France demandait aussi une enquête pour non-dénonciation de crimes, dans le but de retrouver des personnes qui auraient couvert les agissements de l'abbé Pierre. Mais pour cette infraction, les faits sont prescrits, c'est-à-dire trop anciens pour être jugés, explique le parquet de Paris. Et là aussi, la découverte d'éventuelles nouvelles victimes n'y changerait rien. L'abbé Pierre est mort en 2007. À cette époque, la prescription était de 6 ans pour l'infraction de non-dénonciation de crime. Et même si la loi a changé depuis, elle ne s'applique pas dans les cas plus anciens. Même si des faits plus récents étaient révélés à l'avenir, cela ne pourrait donc en aucun cas aboutir à un procès.
Et la conférence des évêques de France déclare ce soir regretter la décision du parquet. Elle se dit déterminée à agir pour que toute la vérité soit faite sur les actes commis par l'abbé Pierre. Fin de citation. La Cinémathèque française traverse une période difficile. Il y a eu les polémiques sur la diffusion des films de Roman Polanski ou Jean-Claude Brissot. En décembre, ce fut la programmation du dernier Tango à Paris. Le film de Bertolucci ou Marlon Brando viole Maria Schneider. Deux journaux, Politis et Le Monde, ont également publié des enquêtes sur le management de l'institution. Bonsoir Mathilde Ansker.
Bonsoir.
C'est maintenant la Cour des comptes, Mathilde, qui s'intéresse à la Cinémathèque, un rapport prévu de longue date.
Oui, et d'ailleurs, elle n'esquive pas le sujet sur les questions de management. Ces derniers jours, vous l'avez dit, deux enquêtes sont parues dans la presse. Des salariés ou ex-salariés y dénoncent un management toxique ou bien un climat malsain. Mais les rapporteurs de la Cour des comptes, eux, n'ont pas reçu de signalement. Cela ne confirme pas, mais n'infirme pas ce qui est dénoncé dans les articles, précise le président de la Cour, Pierre Moscovici.
Alors, on s'intéresse au volet financier. Mathilde, le rapport préconise une nouvelle gouvernance pour la Cinémathèque.
La Cinémathèque est une association, mais elle est financée à 75% par une subvention publique via le CNC, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée. Et on peut lire cette phrase dans le rapport. Rien ne justifie que le ministère de la Culture soit absent du conseil d'administration et que le CNC n'y ait qu'une voix consultative. Autre élément pointé du doigt, les statuts de l'association jugés obsolètes et le mandat de directeur général qui n'est pas limité dans le temps. Il faut donc se poser la question d'une intégration au CNC, préconise le rapport, quitte à créer à côté une association des amis de l'institution. De son côté, la Cinémathèque veut bien réfléchir à la place de l'État au sein de son conseil d'administration, mais s'oppose à une absorption. Et par ailleurs, le rapport aborde la question du stockage. La Cinémathèque est une institution magnifique, nous dit-on, mais c'est aussi 50 000 films, plus d'un million d'objets et de documents, d'archives. Ils sont répartis sur 5 sites, en plus de Bercy, des hangars dont la Cinémathèque n'est pas propriétaire, ce qui revient donc à payer des loyers. Enfin, Stanislas, la Cour des comptes insiste, la Cinémathèque peut ouvrir une nouvelle page de son histoire, ce qui suppose d'accepter des évolutions majeures.
Mathilde Ansker, merci. L'actualité autour du cinéma et de l'audiovisuel ce soir, c'est aussi cette actrice turque menacée par le régime du président Erdogan. Mélissa Sezen a joué dans Le Bureau des Légendes, la série française où elle incarnait une militante kurde. Inacceptable pour le régime d'Ankara, Mélissa Sezen a été brièvement interpellée hier à Istanbul pour propagande pour une organisation terroriste. Anand Loer.
Mélissa Sezen apparaît dans la saison 3 du Bureau des Légendes, diffusée en 2017. Elle y incarne une combattante kurde en Syrie, Esrin Güney, recrutée par le renseignement français. À l'époque, comme aujourd'hui, ces combattants sont les alliés des Occidentaux, de la France notamment, dans la guerre contre le groupe État islamique. Problème, les YPG, les unités de protection du peuple auxquelles appartient le personnage campé par Mélissa Sezen, sont aussi la branche syrienne du PKK, parti des travailleurs du Kurdistan, que la Turquie combat depuis une quarantaine d'années. Aux yeux de l'État turc, les uns et les autres se valent, ce sont des terroristes. En 2017, la série passe inaperçue en Turquie, où elle n'est pas diffusée. Mais à l'été dernier, les réseaux sociaux, puis certains médias repèrent les épisodes, et la machine s'emballe. Mélissa Sözen est accusée de faire la propagande d'un groupe terroriste. L'actrice dénonce alors une campagne de calomnie et de harcèlement. A-t-elle été rattrapée par cette polémique à retardement? Entendue comme suspecte à son arrivée en Turquie, Mélissa Sözen aurait assuré avoir ignoré qu'elle portait pour son rôle l'uniforme des YPG. « Je suis quelqu'un qui aime ma patrie et ma nation », a-t-elle déclaré, avant d'être relâchée.
Anne Andloer, correspondante en Turquie. Cette dernière information en provenance de Suède. Une fusillade a fait aujourd'hui une dizaine de morts dans une école pour adultes à Örebro. C'est à environ 200 km à l'ouest de Stockholm. Une dizaine de morts et apparemment l'assaillant figure parmi les personnes décédées. À ce stade, la police suédoise semble exclure un mobile terroriste pour cette fusillade. Un mot du temps demain, quelques pluies sur la moitié nord des Pays de la Loire aux Ardennes. Sur les autres régions, la grisaille dominera avec des éclaircies l'après-midi mais qui ne seront pas généralisées. Les températures resteront fraîches entre moins 4 et 0 degrés en général pour les minimales. Un peu plus doux l'après-midi de 3 à 18 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal. À la technique ce soir, Ludovic Auger.